Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'histoire de la plupart des pays, la notion d'État et de nation étant à part, est millénaire. Mais le XXe siècle fut un siècle terrible, tragique, pour la Corée. En 2009, Thierry Garcin traitait donc de l'histoire contemporaine de la Corée. Avec, en filigrane, une question. En Corée du Sud, comment compose-t-on et réconcilie-t-on les trois identités constitutives de la Corée ? L'identité sud-coréenne, l'identité nord-coréenne et l'identité coréenne dans son ensemble. Première diffusion sur France Culture, le 14 décembre 2009.
Korea is a small country, thousands of miles away.
La Corée est un petit pays très loin du nôtre. Mais ce qui s'y passe est très important pour chaque Américain. Le dimanche 25 juin, les troupes communistes de la Corée du Nord ont attaqué la République de Corée. Cette attaque prouve, sans aucun doute, que le mouvement communiste international est prêt à se servir de l'invasion par la force pour conquérir des pays indépendants. Un acte d'agression comme celui-ci est une menace sérieuse pour la sécurité de toute nation indépendante. Par leur action en Corée, les dirigeants communistes démontrent leur mépris de tous les principes moraux sur lesquels les Nations Unies sont fondées.
Quelle identité coréenne ? Premier de deux volets, reportage novembre 2009, Thierry Garcin, traduction de l'anglais Fabien Fougeret, archive de l'INA Cécile Rogue, mixage Jean-Richard Dufour et réalisation Daniel Finot. On vient de l'entendre, la guerre de Corée devient vite l'objet des rapports Est-Ouest naissants. On a reconnu le président Harry Truman le 30 juin 1950, discours à la nation. En juin 2010, on marquera le 60e anniversaire du début de la guerre de Corée, peut-être un million et demi de morts. Cette guerre, permise par les Nations Unies, fut à la fois une guerre civile et une guerre internationale avec l'intervention de la Russie, l'apport du fameux million de combattants chinois au profit du Nord. Vous entendrez d'ailleurs de nombreuses archives de l'époque. Mais il faut aussi apprendre d'un grand peuple dévasté par l'histoire. Le XXe siècle a été le siècle tragique de la Corée. 35 ans d'occupation japonaise d'une grande cruauté, 1910-1945. D'ailleurs, 1910, cela fera un siècle l'année prochaine. Et d'autre part, une division organisée par Moscou et Washington après-guerre. Une partition ensuite, depuis 56 ans maintenant. Royaume ermite, Pyongyang est aussi et surtout un régime kleptocrate de sa moitié de peuple. Quant au Sud, il s'est redressé d'une façon remarquable. Il n'avait aucun atout en 1953. Ses relations avec Washington, consenties et obligées, lui sont une autre forme de dépendance. Retour à la guerre, 1950, le départ de France du bataillon Montclar, 1000 hommes volontaires.
Une lumière grise baigne la Canebière, au sommet de laquelle nous nous trouvons en ce moment. Une foule nombreuse est venue saluer le premier bataillon de volontaires français pour la Corée. Ce qu'est exactement ce bataillon, un de ses lieutenants va nous le dire.
Ce bataillon est composé de 2/3 de militaires d'actifs provenant de toutes les armes et 1/3 de réservistes qui sont tous animés du même désir, celui de servir au nom de la France l'idéal des Nations Unies.
Les applaudissements devaient escorter jusqu'à la mairie des jeunes hommes, à la mairie où les attendait, outre les personnalités civiles et militaires, une délégation de femmes de Marseille qui remirent à chacun des chefs de section une gerbe d'œillets tricolores. Aux paroles de Maître Carlini, maire de Marseille, qui salua les volontaires en la personne du général Monclar, ce dernier devait répondre par une présentation émouvante de ses hommes.
Ils n'ont pas été attirés davantage par la recherche d'aventures inconnues. Presque tous ont combattu, d'abord dans les rangs de la Libération, à la première BFL, à la deuxième TB, dans les parachutistes, dans les bataillons de chasse. Sans compter les officiers et les sous-officiers, 155 sont décorés. Par conséquent, depuis longtemps, ils ont pu désaltérer leur soif d'aventure. Mais ils ont pensé que cette fois, une croisade était faite pour la paix. Et cette tentative, cet espoir, ils ont voulu la partager, en faire partie et représenter la France.
Novembre 2009 maintenant, à Séoul, Park Dong-gae, vétéran coréen.
Dans l'armée française, le bataillon français, donc il travaillait juste à deux combats de Jipyongni, à départ de français, départ de bataillon français en France.
D'ailleurs, tu es 42. 당시에 열 아니 스물 세 살인가 그렇게 스물세 살 스물두 저희 두 살 그때지.
Il avait à peu près 22, 23 dans la guerre de Corée. Maintenant, il a 82.
Bien sûr, il a des souvenirs de la guerre et des batailles qui étaient très méchants. Mais aussi, ce dont il se souvient le plus, c'est la camaraderie française. Donc, tous ces jours qu'il a passés avec ses camarades français et le bataillon français, et eux, il le traitait comme un vrai ami et un vrai camarade. Et il n'y a pas de discrimination. Il est traité en fait comme des vrais frères en fait. En tant que combattant, il a participé à toutes les guerres avec le bataillon français. Mais la bataille le plus marquante pour lui, c'est la crève du cœur. Et c'est là où il a été même buté. Et il voyait des obus qui partaient, qui s'envoyaient en l'air. Et donc, en fait, c'était un moment très inoubliable et qui sentait vraiment le moment de mort, en fait.
Père Bernard Sénécal, on vous retrouve ici, ou on vous découvre ici plutôt, à la communauté jésuite de l'université
Sogang.
Et vous allez nous dire un petit peu d'abord pourquoi êtes-vous venu ici?
Parce qu'on m'a proposé, on me l'a proposé tout simplement. Quand je suis entré chez les jésuites en 1979, plus précisément, on m'a demandé si je m'intéressais au monde soviétique, ou à la Chine, ou à l'islam. Et j'ai dit oui, et que j'allais accepter d'aller là où on m'enverrait. Et il se trouve qu'en Corée du Sud, on a demandé l'envoi de 3 jeunes missionnaires français. Et donc on m'a fait la proposition, j'ai regardé où le pays se trouvait sur une carte, et puis j'ai dit au bout d'une semaine que le pays me plaisait, de par sa situation géographique, et que j'avais vraiment envie d'y partir, d'y consacrer le reste de ma vie, quoi. De consacrer à son étude le reste de ma vie.
Mais vous ne saviez pas ce qui allait vous attendre?
Non, on ne sait jamais. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le mariage. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui nous attend? C'est quand on commence une carrière, est-ce qu'on sait ce qui nous attend? Non, mais on a une intuition de départ, et quand cette intuition est authentique, eh bien, elle ne nous lâche pas, quoi. C'est un peu comme suivre sa propre étoile. Et bien qu'on ne connaisse pas la suite du chemin, eh bien, on a la certitude que ce chemin ne mène pas nulle part. J'avais fait à Paris un petit peu d'études, mais c'est un vernis ne correspondant à pas grand-chose. J'ai commencé par faire 3 ans d'école de langue à plein temps. Et on m'avait dit, la clé ici, c'est la langue. Sans la langue, tu seras toujours un handicapé, tu pourras rien faire. Je crois que c'était le meilleur conseil que pouvaient me donner mes aînés, quoi, ceux qui étaient passés par l'expérience de l'apprentissage de la langue. Et 3 ans, mais vraiment à ne faire que ça, quoi. J'ai presque envie de dire jour et nuit. Et au bout de 3 ans, bon, j'ai commencé à travailler dans des quartiers pauvres. Et c'était en tenant le balai, en aidant les gens qui faisaient des tâches ménagères, quoi.
À Séoul.
Ah, c'était dans une banlieue de Séoul. C'est comme ça que, vous savez, l'école de langue, c'est comme un laboratoire, hein. On peut avoir d'excellentes notes à l'école de langue, mais ça ne veut pas dire que quand on se retrouve dans la rue à mettre en pratique ce qu'on a appris, que ça sort tout seul et que les gens nous comprennent. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on les comprenne. Hein. Il ne faut pas s'éterniser dans les écoles de langue. C'est un milieu protégé, quoi. Hein. Alors il faut passer à la réalité. Et c'est quand même assez éprouvant, c'est assez cruel, quoi, de s'apercevoir qu'on n'est pas compris, qu'on ne comprend pas, et qu'en conséquence, on est traité comme si on était un petit enfant. Mais en fait, au plan linguistique, on est un petit enfant, en réalité, bien qu'on soit adulte au plan psychique.
Est-ce que vous vous rappelez aujourd'hui, donc en 2009, les premières images qui vous ont le plus, au sens photographique du terme, qui vous ont le plus impressionné sur la société coréenne ou celle de Séoul, peut-être au départ?
Oh, je me souviens. Quand je suis arrivé, eh bien, la largeur des rues extrêmement larges et où il y avait très peu de voitures à l'époque. Maintenant, elles sont congestionnées. Mais à l'époque, la production des voitures coréennes était destinée à l'étranger, non pas au marché local. Le marché national ne se prêtait pas à la vente des voitures. Et ensuite, il y avait des autobus, des queues d'autobus qui n'en finissaient pas parce que les Coréens se déplaçaient en bus. Alors ça, donc la largeur des rues, l'absence de voitures et une surabondance de bus. Et j'ai trouvé ça moche comme tout. J'ai trouvé Séoul. Je me suis dit, c'est avec ce pays que je dois vivre maintenant. C'est pour ce pays que j'ai eu un coup de foudre en voyant la carte. Et j'ai trouvé la ville de Séoul absolument hideuse.
Elisabeth Chabanol, est-ce que vous pourriez, je vais vous présenter dans un instant, mais est-ce que vous pourriez un peu nous dire de quelle façon vous avez été amenée au tout début à connaître la Corée? Je précise, donc vous êtes maître de conférence, que vous êtes depuis 23 ans en Corée, que vous dirigez donc le centre à Séoul de l'école française Extrême-Orient et qui est installé à l'université Koryo, qui veut dire donc de Corée, qui est le terme, je crois, originel.
Donc en fait, je suis arrivée il y a à peu près 23 ans en Corée, en République de Corée, en Corée du Sud. Mais mon premier voyage a eu lieu en février 1981, lors d'un très bref passage dans la capitale sud-coréenne. Et à l'issue de mes études universitaires, j'ai eu l'occasion de revenir travailler et étudier au sud de Séoul, dans la ville de Daejeon, environ 160 km au sud de la capitale. Et c'est là que j'ai vécu une dizaine d'années en étudiant et enseignant avant de me rendre dans la ville de Gyeongju, une ancienne capitale du royaume de Silla, du début de l'ère chrétienne, où j'ai travaillé pendant 2 ans comme chercheur au musée national de Gyeongju.
Alors vous avez une triple connaissance de la Corée. La première, c'est Séoul, évidemment. La deuxième, c'est l'intérieur du pays. Et puis, la troisième, c'est que vous avez une pratique quand même, au moins en tant que chercheur et voyageur, de la Corée du Nord.
Oui, en fait, je me rends en Corée du Nord depuis janvier 2003. Tout d'abord, c'était par intérêt purement personnel, en fait, intérêt de chercheur. Après avoir bien travaillé et connaissant bien les sites archéologiques du sud de la péninsule, je pensais qu'on ne pouvait pas comprendre l'histoire de l'Asie du Nord-Est sans se rendre en Corée du Nord, qui abrite de nombreux sites archéologiques. Je connaissais déjà en fait la Mandchourie et les anciens sites du Koguryo, et il me fallait connaître en fait cet espace un petit peu secret entre la Mandchourie et la Corée du Sud, qui est donc la Corée du Nord.
Je suis française, coréenne adoptée.
Donc votre histoire est évidemment très importante.
Oui, c'est une des raisons qui m'a amenée ici. Mais de notre côté, je pense avoir réalisé ma culture française, d'autant plus en étant venu ici.
Joël Girardin, professeur à l'Alliance française.
Parce que j'ai découvert que quand même j'avais une façon de penser et des réactions qui étaient quand même très différentes des gens d'ici. Donc même si pour les Coréens la question du sang est très importante et que du fait que je sois née en Corée de parents coréens fait que je fais partie, on va dire, de la tribu coréenne, il y a quand même cette différence culturelle qui est assez grosse entre la France et la Corée, je pense.
Si l'on revient à votre itinéraire personnel dans les années 80 en Corée, qu'est-ce qui distingue cette Corée des années 80 sur le plan sociétal, social, peut-être familial, etc., de la Corée d'aujourd'hui ?
Moi, je crois que c'est une... Bon, c'est-à-dire il y a une crise économique. Et en même temps, il y a un niveau de vie qui a considérablement augmenté. Il y a eu une aisance, il y a eu une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus considérable.
Père Bernard Senecal, jésuite.
Quand je suis arrivé au début des années 80, l'obtention d'un passeport était difficile. Aller faire des études à l'étranger... l'était encore plus. Et il n'était pas question d'aller voyager, sauf si on appartenait à une classe vraiment privilégiée. Maintenant, les Coréens voyagent énormément. Vous voyez plus d'étrangers à Séoul. Les étrangers, on se saluait sur les trottoirs. Maintenant, bon, il y a beaucoup plus d'étrangers. Et il y a un problème de main-d'œuvre étrangère qui se pose. Il y a au moins 1 200 000 travailleurs étrangers encore, et peut-être beaucoup plus, en fait, si on regarde... Ils viennent du sud-est asiatique. Ils viennent de tous les pays du sud-est asiatique, ils viennent aussi de Chine, il y en a qui viennent du Népal, ils viennent d'Asie centrale, vous savez, ces pays Kazakhstan, Kyrgyzstan, ils viennent de ces pays-là aussi. Les différences entre la Corée dans laquelle j'ai commencé à vivre au début des années 80 et celle dans laquelle on se trouve actuellement, je l'évoquais un peu tout à l'heure, il n'y a pas de voiture personnelle. Par exemple, à table, il y avait de la viande une fois par semaine, et les Coréens ne la mangeaient pas. Moi, je me précipitais dessus, quoi. J'étais en manque de protéines. Il n'était pas question d'aller voyager à l'étranger. Le nombre de Coréens qui n'avaient jamais pris un avion était absolument considérable. Et c'était un pays qui était sous la dictature, et on ne pouvait même pas parler de politique dans un café. J'ai posé une fois une question sur le dictateur Chun Doo-hwan, et tout le monde s'était mis à regarder autour. Au cas où un agent de la police secrète les aurait pris en flagrant délit de parler avec un étranger de politique. C'est un climat, comment on dirait, de terreur, hein, ni plus ni moins. Alors, vous avez maintenant un pays où il y a je ne sais pas si le terme s'emploie en français, une affluence de biens de consommation qui est considérable, des possibilités de voyage. Il y a beaucoup plus de confort. Alors, je crois que l'une des conséquences principales, c'est qu'on avait une société coréenne au début des années 80 extrêmement diligente, extrêmement disciplinée et soumise, en dépit de l'existence de mouvements ouvriers très, très organisés et puissants, mais que le gouvernement contrôlait très fort. Non, vous avez une société beaucoup plus permissive, beaucoup plus... Et une jeunesse qui n'a pas connu les difficultés que de la période de l'industrialisation massive du pays avec un déplacement des campagnes vers les villes. Vous avez une jeunesse qui est loin... dans beaucoup de cas, d'être aussi dur au travail que la génération de ses parents, quoi. Les jeunes ont envie de vivre leur vie, d'en profiter. Tandis que pour les parents, c'était des 12 heures par jour de travail, 6 jours par semaine dans les usines.
Joël Girardin, française et coréenne, enfant adopté en France, de retour en Corée. Alors on dit souvent à propos de la culture coréenne actuelle et de la société coréenne actuelle, est-ce que c'est un cliché ou non ? On dit que c'est une société compartimentée, clanique, hiérarchisée, segmentée, on va dire, puisque... vous avez la culture française, donc est-ce que c'est un cliché ou pas ?
C'est vrai qu'en tant que française, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de hiérarchisation. Ça, c'est quelque chose qui reste encore très fort. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre en tant qu'européenne, mais quelque part, ça fait partie de la culture. Donc, ces questions d'âge, si on a ne serait-ce qu'un mois de plus ou de moins, et que ça change un peu la façon de parler à la personne, c'est quelque chose de culturel. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre en tant que Français. Donc après, est-ce que ça doit changer ou pas? C'est pas, je pense que c'est pas à nous à le dire. C'est à eux, si voilà, c'est au peuple coréen de dire bon, on en a marre de ça ou ça nous convient très bien. Donc c'est quand même assez présent. Après, je sais pas si c'est un cliché dans le sens où ça fait partie de la culture aussi, du confucianisme et de ses règles de vie sociale.
Comment est-ce qu'on peut parler, Madame Moon, de l'évolution du rôle de la femme, c'est évidemment une question très large, dans la société coréenne, au moins depuis un certain nombre d'années?
Vous savez, la Corée était longtemps un pays du confucianisme.
Moon Si-young, professeur à l'université Sungkyung, université privée, université féminine, 12 000 étudiants à Séoul, 9 facultés.
Donc ce sont des hommes qui dominaient et les femmes qui étaient plus ou moins soumises. Mais là, avec l'évolution du temps, la société change, et en même temps les femmes aussi, les statuts des femmes, ça change aussi. Mais c'est, en fait, les femmes étaient dans des situations très difficiles, parce que ce sont des hommes, soit qu'ils font des travaux, je sais pas, assez importants à leurs yeux, et les femmes étaient condamnées à faire des tâches ménagères. Mais en fait, à force d'assumer ce rôle un peu soumis, les femmes coréennes sont devenues je sais pas, des femmes très actives qui assument tout. Je pense que les femmes coréennes sont la force de la Corée et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. Par exemple, en tant que mère qui fait tout, en tant que l'épouse qui fait tout pour son mari, en tant que mère qui fait tout pour les enfants, finalement, dans ce rôle très actif dans tous les domaines, elles deviennent très indépendantes. Et par contre, les hommes, ils sont plus ou moins servis, mais ça change aussi avec l'évolution du temps. Donc finalement, ils ne savent pas faire tout seuls, les hommes. Donc, du coup, je pense que les femmes ont accumulé pas mal de savoir-faire. Donc là, maintenant, par exemple, au niveau de la langue, surtout étrangère, ce sont des femmes qui parlent très bien, alors qu'en général, c'est comme ça. Les hommes parlent un peu moins, ils raisonnent plus, peut-être. Et de là, je pense que si la Corée est aujourd'hui arrivée à devenir 10e ou 11e puissance du monde, enfin, économique, je pense que c'est vraiment grâce aux Coréennes qui savent se consacrer à tout. Je pense que c'est vraiment notre compétitivité.
Lorsque j'ai commencé à enseigner il y a 23 ans, en plus en province, dans une ville de province.
Elisabeth Chabanol, directrice du centre de Séoul de l'école française d'Extrême-Orient.
J'enseignais aux meilleurs étudiants d'une région qui était souvent de famille d'agriculteurs. Et maintenant, bon, bien sûr, j'enseigne à Séoul dans un autre type d'étudiants qui proviennent de familles plutôt aisées de la capitale. Oui, bien sûr, et ces étudiants ont beaucoup changé. Il y a 23 ans, ils parlaient difficilement une langue étrangère. Maintenant, pratiquement chaque étudiant parle l'anglais, peut s'exprimer en anglais. Et à une connaissance du monde, ne serait-ce que grâce à l'Internet et tout aux techniques nouvelles dont les Coréens sont extrêmement friands, une ouverture impressionnante vers le monde qu'ils n'avaient pas il y a 23 ans. L'Internet a certainement beaucoup compté, mais de plus aussi ces étudiants qui ne pouvaient pas sortir de leur pays dans les années 80, à partir de la démocratisation après 1987, ont commencé à aller étudier à l'étranger, bien sûr en priorité aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Chine, et sont revenus dans leur pays eux-mêmes enseigner ou travailler, donc oui.
Alors, je ne sais pas si c'est une question intéressante pour la société coréenne, mais est-ce qu'il y a des mariages mixtes, donc coréens et étrangers, qu'ils soient occidentaux ou non? Et est-ce qu'en la matière, il y a eu des évolutions ou non?
Bien sûr, là aussi, il y a eu des évolutions. Alors, autrefois, bon, c'était les jeunes femmes coréennes qui épousaient très facilement des étrangers.
Et ce genre de mariage, bien sûr, était plus ou moins bien vu parce que ça a été bon, à la suite de la guerre de Corée, ces jeunes femmes épousaient plutôt des militaires et des soldats américains. Et puis, depuis quelques années, justement, les jeunes Coréens partant travailler à l'étranger ou étudier à l'étranger, il leur arrivait d'épouser des filles ou des femmes occidentales, même si ces cas-là sont encore extrêmement rares. Et comme vous devez le savoir aussi, dans les campagnes coréennes, les jeunes hommes ou même plus âgés ne trouvant pas de Coréennes pour se marier... n'hésite pas à épouser là des personnes plutôt d'Asie du Sud-Est.
Alors moi je crois que mes étudiants ont c'est-à-dire une différente mentalité.
Kang Ho-kyung, professeur à l'Alliance française.
Eux ils ont on peut dire qu'ils ont un esprit plus libre, hein, plus libre, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils pensent. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je peux pas parler librement devant les adultes. Aujourd'hui, d'ailleurs, aussi, je peux pas. Mais eux, ils se dérangent pas. Ils se dérangent pas. Ils s'expriment librement, même devant moi. Donc moi, je fais parler mes étudiants souvent. Mais je suis vraiment très étonnée des fois, oui. Par exemple, aujourd'hui, dans la classe, en classe, on a parlé des mariages mixtes, c'est-à-dire surtout avec une autre race, oui, c'est-à-dire une race blanche, bon, ou une race, c'est-à-dire noire. C'est-à-dire, j'ai demandé à mes étudiants. Mais la génération de mes amis, c'est-à-dire ma génération, c'est-à-dire surtout à cause de mes parents, je pourrais pas me marier avec une autre race. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, ma mère accepterait rarement. C'est-à-dire, je pourrais pas me marier avec un Français ou c'est-à-dire un Africain surtout. Mais maintenant, les jeunes, ils ont un choix, quoi. Donc, j'étais très étonnée aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait un étudiant qui dit, moi, j'aime pas les filles africaines, noires. Ah, j'étais étonnée aussi. Donc, pourquoi? Elles sont belles, il dit, mais... C'est-à-dire, moi, j'aime pas, en général, les étrangers. C'est-à-dire, c'était son avis personnel. C'est pas à cause de la société ou ni à cause de ses parents. C'était très frappant pour moi. Voilà.
Est-ce qu'ils parlent, à votre avis, les jeunes aujourd'hui, politique en famille, par exemple, avec leur père à table ou ailleurs?
Je ne sais pas, ça je peux pas vous dire parce que ça dépend des familles surtout, mais je crois pas. Je crois pas. Nous on en parle surtout avec des amis, je crois, avec des amis, avec des collègues surtout, mais avec mes parents, dire la politique, c'est ça, pour moi en tout cas c'est pas pensable.
Reportage à Séoul, quelle identité coréenne?
Selon United Press, 28 novembre 1950, le Pentagone aurait refusé en juillet d'employer la bombe atomique. On apprend de sources autorisées à Washington que le grand état-major américain a étudié au début de la guerre de Corée la possibilité d'employer la bombe atomique comme une arme tactique contre les troupes communistes, mais qu'il s'est prononcé contre ce projet. L'idée avait été émise simultanément, mais indépendamment, par des officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, lorsque le gros des forces nordistes se trouvait concentré dans un étroit secteur près de Suwon. Comme l'approbation du président Truman est nécessaire pour l'emploi des armes atomiques au cours d'une guerre, La question fut posée à la plus haute instance militaire américaine, l'état-major interarmes. Celui-ci décida, semble-t-il, de son propre chef que cette initiative serait peu sage, et il ne soumit pas la proposition au président. La raison du refus de l'état-major n'a pas été révélée, mais on croit que des facteurs moraux et diplomatiques ont influé sur sa décision.
Jacques Salbert, correspondant de guerre de la RTF, dialogue avec Pierre Desgroupes le 21 septembre 1950.
Eh bien, hier, Jacques Salbert, nous avons parlé des défaillances ou de l'impréparation des services de renseignement américains. Aujourd'hui, nous pourrions passer à un autre domaine et aborder celui de l'armement et du combat. Car on peut dire de la guerre de Corée ce qu'on a dit de la guerre d'Espagne. Elle est un terrain d'expérience et à cet égard, j'imagine que les stratèges et les techniciens américains ont dû tirer un certain nombre de leçons et même, disons-le, en recevoir.
Eh bien, le premier enseignement de cette guerre de Corée, celui qui en tous les cas a sauté aux yeux de tous les observateurs, surtout était dans le domaine de l'aviation. Vous savez que les Américains, en avion de chasse, avaient en Corée plusieurs escadrilles d'avions à réaction et plusieurs escadrilles de chasseurs normaux, si je peux dire, qui avaient déjà fait leur preuve au cours de la dernière guerre mondiale, principalement des Mustangs. Au début, les Américains ont surtout fait donner des escadrilles de chasseurs à réaction. Les chasseurs à réaction ont fait absolument merveille dans les combats individuels. Ces combats individuels ont été assez rares, car l'aviation nordiste s'est très peu manifestée, simplement pendant les premiers jours de la guerre et devant la supériorité de la chasse américaine, n'a pas insisté. Indiscutablement, un avion à réaction contre un chasseur Yak a pourtant déjà fait ses preuves au cours de la dernière guerre, est de beaucoup le plus fort. Le Yak ne peut rien contre un avion qui marche à 200 km de plus que lui à l'heure. Mais lorsque l'on a voulu employer des avions à réaction pour des missions de mitraillage, des missions de strafing, on s'est heurté alors à des difficultés que l'on n'avait pas, tout au moins il ne semble pas qu'on les ait prévues. D'abord, la Corée est un pays extrêmement montagneux. Lorsqu'il fallait faire des missions de mitraillage en rase-motte dans une vallée qui est assez encaissée, à 800 km à l'heure, d'une part, il est extrêmement difficile de pouvoir avoir l'objectif dans son collimateur à des vitesses pareilles, et ensuite, lorsqu'on a une montagne devant soi, il est assez dangereux de redresser très rapidement pour éviter l'obstacle qui se trouve en face de soi. Donc, les missions de mitraillage d'avions à réaction ont été, on peut le dire, une déception. Et l'état-major américain, à ce moment-là, a été obligé d'employer beaucoup plus les chasseurs normaux, les Mustangs, qui peuvent tout de même faire leurs missions de mitraillage à des vitesses beaucoup bien moindres et avec beaucoup plus de précision. Ce qui fait que tous les renforts d'aviation de chasse qui ont été amenés en Corée ont été constitués par des escadrilles de Mustangs.
La façon, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important, la façon dont on ressentait la partition du pays ou dont on parlait de la, entre soi, entre Coréens, de la partition du pays. Est-ce que cette chose-là a évolué depuis que vous êtes là, c'est-à-dire depuis 25 ans environ?
Je pense pas que ça ait... Il y a plus d'échanges avec le Nord, dans un sens. On a eu une conscience beaucoup plus aiguë des conditions humanitaires de la Corée du Nord, il y a un souci d'aider.
Père Bernard Senecal, jésuite.
Mais en même temps, bien que ce soit un pays qui se trouve, je crois, à une quarantaine de kilomètres de Séoul et qui menace de ses canons à longue portée toute la couronne séoulienne de destruction, il peut faire en une heure à se servir de ces canons-là, il peut faire un dommage considérable. On oublie complètement l'existence de la Corée du Nord. C'est ça qu'il faut voir. La Corée du Sud est ouverte sur le monde par les bateaux, par les avions. Et on oublie le voisin du Nord. Et le souci de la réunification est absolument pas la préoccupation numéro un des gens que je connais. C'est pas la préoccupation numéro un des étudiants. C'est une situation nationale tragique. L'union fait la force et la division affaiblit. Mais ça n'est pas la préoccupation numéro un des Coréens. Absolument pas. Et ensuite, la possibilité d'une réunification demeure extrêmement aléatoire. Bon, et des experts de la Corée du Nord disent que le Nord tel qu'il est peut perdurer pendant encore un siècle sans que ça pose aucun problème. Il n'y a rien qui, à court terme, permette d'anticiper un effondrement du régime nord-coréen. Bon, bien sûr, c'est ce qu'on disait du mur de Berlin, c'est ce qu'on disait de l'Union soviétique. Mais à court terme, ça semble, même à moyen terme et à long terme, ça semble un régime qui soit en place pour pouvoir durer, quoi.
Mais en même temps, on imagine, peut-être à tort ou raison, on a tendance à imaginer qu'on en parle dans les familles, c'est-à-dire qu'une partition date de 53, un grand-oncle qui aurait, mettons, aujourd'hui 85 ans, dans la famille, peut dire et raconter ce qu'il a vécu du temps de la, d'avant la partition. Et même, est-ce que c'est quelque chose dont on parle ?
Je crois que ça va plus loin que ça. Moi, j'ai quantité d'amis dont la famille est extrêmement marquée par les conséquences de la guerre de Corée et par la partition du pays. Bon, moi, je connais des gens dont le père est un réfugié du Nord et qui ne s'est jamais remis de ne pas pouvoir revoir ses parents. Et ça a marqué son comportement en tant que père de famille, en tant qu'époux. Et ses enfants en ont énormément souffert. Mais je veux dire, des cas comme ça, on en trouve en très grande quantité. Le parallèle que j'ai envie de faire, bon, c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur la société française. Alors c'est un conflit qui est peut-être très loin derrière, mais qui a marqué en profondeur l'histoire. Et c'est une histoire dont on ne peut pas tourner la page. Comme ça, c'est pas parce que l'événement s'éloigne dans le temps que ses répercussions ne demeurent pas manifestes de multiples façons, bien qu'on n'en parle pas tout le temps. Dans le cas de la Corée du Nord, on dit bien que c'est 10 millions de personnes qui ont été divisées par le conflit et l'établissement d'une zone démilitarisée entre les deux pays. Et ça se sent, mais de multiples façons. On a des étudiants de l'université qui sont des réfugiés de Corée du Nord. Moi j'en accompagne personnellement et... ils le disent bien, ils viennent d'un pays qui fait qu'ils ne sont pas préparés à vivre en Corée du Sud, bien que désormais leur avenir se joue ici. Mais il y a un écart de mentalité tel qu'ils sentent bien qu'au niveau du vocabulaire, de la manière de penser, de concevoir la réalité, ils seront toujours en marge de la société sud-coréenne. Ça, pour vous parler du point de vue du Nord.
So Leung-so, président du Conseil coréen pour l'éducation à l'unification.
Monsieur Saul, en ce qui concerne les familles séparées, c'est l'une des questions évidemment les plus cruciales des deux Corées d'ailleurs.
Au cours du processus de division, des personnes alors dans l'illégalité ainsi que certaines personnes pauvres voulaient se rendre en Corée du Nord parce qu'elles avaient une mentalité plutôt progressiste. Et les personnes plus riches et plus conservatrices se sont généralement rendues, elles, en Corée du Sud. Et c'est ainsi qu'a commencé la séparation. Et la guerre de Corée a rendu cette division encore plus claire aux yeux de tous. Après la guerre, il n'était plus possible de passer de l'un vers l'autre. Au début, on estimait à 10 millions le nombre de personnes concernées par la question de la séparation des familles. En 1985, la Croix-Rouge a suggéré que l'on puisse réunir ces familles. Et cela a pu se produire dans certains cas isolés. Mais en l'an 2000, grâce à la déclaration du 15 juin qui mentionne la réunion de ces familles séparées, le processus a pu continuer. Au début, il y en avait 130 000 demandes de réunification. Et 3 000 personnes ont pu revoir les autres membres de leur famille. Ce qui laisse encore 127 000 personnes n'ayant pas revu leur famille. Malheureusement, 40 000 de ces demandeurs sont morts. Et aujourd'hui, il reste encore plus de 74 000 personnes toujours en attente. La réunification de ces familles est une raison humanitaire pour laquelle les deux Corées devraient être réunifiées.
La division du pays, est-ce que par exemple, c'est important pour vous? Est-ce que vous en parlez en famille, par exemple, dans la conversation, à table, à déjeuner, à dîner? Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité permanente?
Je pense qu'avant, oui, mais plus maintenant.
Avant, c'est-à-dire?
La génération avant, pas notre génération.
Li Rouli, étudiante à l'Alliance française.
Parce qu'avant, comme la guerre est passée un petit peu, oui, à peu près aux centaines, c'est pour cela, avant, il y avait des familles qui sont séparés, qui étaient séparés à cause de la guerre. Mais maintenant, on n'a pas, j'ai pas de cousins ou de frères ou de sœurs qui habitent là-bas. Donc, je m'intéresse plus à la division. Oui, quand il y a des infos à la télé, je vois et je pense, oui, je réfléchis, mais à la vie quotidienne, je ne pense pas, je n'y pense pas.
Monsieur Lim Byung-chol, au ministère de l'Unification, donc l'un des impacts les plus importants d'une possible unification, c'est l'impact social, l'évolution des deux sociétés après une éventuelle unification.
Notre gouvernement recherche une réunification qui soit à la fois bénéfique pour chacun et qui se fasse de manière progressive. Si l'on regarde d'autres processus d'unification qui ont eu lieu, comme l'unification allemande par exemple, cela entraîne de nombreuses répercussions sur les plans économiques, politiques, sociaux et culturels. Nous pensons donc qu'une réunification menée de manière trop brutale, sans prendre le temps de dresser un cadre institutionnel et politique viable, sera la source de nombreux conflits. Nous ne voulons donc pas presser les choses. Actuellement, le produit national brut en Corée du Sud est 37 fois plus élevé qu'en Corée du Nord. Notre volume total d'échanges est 225 fois plus important que celui de la Corée du Nord. Le fossé économique est donc énorme. Une unification trop rapide ne fera que creuser encore davantage ce fossé entre les deux Corées. En ce qui concerne les impacts sociaux et culturels, nous risquons de voir apparaître une certaine discrimination entre les populations du Nord et du Sud. De même, un processus mené trop rapidement risque d'empêcher que ne se crée ce sentiment d'unité nationale. Donc, ayant considéré tous ces risques, notre gouvernement cherche dans un premier temps à faciliter la coopération et les échanges pour diminuer le fossé qui nous sépare avant de procéder de manière très graduelle à une réunification.
Alors, ce qui est compliqué, évidemment, de l'extérieur, vous le savez bien, de France, c'est de voir comment les Coréens du Sud sont aussi Coréens de l'ensemble de la Corée, puisque c'est la même civilisation, le même peuple, et que cette division est totalement artificielle. Est-ce qu'il y a ce souci en Corée du Sud, dans la population, de se retrouver avec le Nord un jour, par des moyens, personne ne les connaît, ces moyens, mais par des moyens politiques X ou Y?
Ben, c'est ça qui m'a un peu surprise, c'est que justement, je ressens pas ce désir, en tout cas dans la nouvelle génération, je ne ressens pas ce désir, ni cette envie d'en parler forcément. Enfin, parmi mes amis coréens, c'est pas un sujet qu'on aborde ou qu'on a souvent abordé, et si on en parle, la réponse reste toujours un peu la même, du doute, de la méconnaissance, et pas d'intérêt particulier.
Joël Girardin, professeur à l'Alliance française, coréenne adoptée, retour récent à Séoul.
Donc quelque part, oui, ils se sentent concernés quand même, mais il y a ce détachement, cet éloignement qui est assez présent quand même dans leur discours, je pense. Ce qui m'a un peu surprise, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas si longtemps que la Corée a été séparée.
Pas si longtemps, et en même temps, 53, ça fait quoi? Ça fait quand même plus de 50 ans, 55 ans en gros.
Mm-hmm. Oui. Donc ça fait
deux générations. Oui.
Donc, mais enfin, personnellement, je trouve que ça n'avait pas si longtemps pour en être aussi détaché, en fait. C'est ça. Donc c'est vrai que je suis assez pessimiste sur la réunification. Si ce n'est du côté politique, je ne pense pas qu'au niveau du peuple, il y aura beaucoup de démarches dans ce sens-là.
Et en même temps, si un jour ça arrive, et ça arrivera, il faut l'espérer, mais si ça arrive, et plutôt quand ça arrivera, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve devant deux sociétés de type assez différentes, la Sud, mm-hmm. qu'on connaît bien, et la Nord, qui est une énigme, et qui est une société qui a beaucoup reculé depuis 55 ans?
Si, je pense qu'il y aura une espèce de choc de culture à ce niveau-là, oui, parce que je connais des personnes qui sont allées en Corée du Nord et c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver dans les années 80, les années 80 de la Corée du Sud. Donc il y a un décalage temporel, je dirais, entre les deux. Donc je pense qu'il y aura un certain choc culturel important à ce niveau-là. Oui.
Monsieur Sol, est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient les conséquences d'ordre social, les conséquences possibles d'une éventuelle unification ?
Hier, nous étions le 9 novembre, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et un an plus tard, les deux Allemagnes étaient unifiées. Certaines personnes pensent que cette unification s'est faite soudainement. La question est de savoir si la Corée pourrait subir un processus aussi rapide. Le souci actuel de la Corée du Sud est l'effondrement soudain du régime de Kim Jong-il, dont la santé s'aggrave de manière inquiétante, car la Corée du Nord ne se situe pas sur le même niveau économique que la Corée du Sud. Donc, quand la réunification aura lieu, soudainement, la Corée du Sud se retrouvera confrontée à trois problèmes. Le premier sera ce fardeau économique. La Corée du Sud devra créer des emplois pour les Coréens du Nord. Le second, ce sera une certaine confusion sociale, voire un chaos social. Et enfin, le troisième prendra la forme d'un chaos au niveau de la dynamique politique et de l'influence de la Chine, de la Russie et du Japon. Si nous parvenons à achever une réunification, alors la Russie et la Chine pourraient s'inquiéter de leur perte d'influence sur la Corée du Nord. De manière générale, de nombreux pays s'inquiètent de la réunification des deux Corées. Mais pour les Coréens, même si la réunification provoque quelques problèmes d'ordre économique, c'est un passage obligé. La Corée du Sud souhaite la réunion des deux Corées pour l'horizon 2020, lorsque le PIB des Coréens aura atteint 40 000 dollars. Et ce n'est pas grave si cela se produit même 4 ou 5 ans plus tard. Je pense que quoi qu'il arrive, nous devons nous attendre à une réunification.
Je ne sais pas si on peut le dire facilement à coréen. C'est vraiment un peuple sacrifié par les enjeux et les intérêts des grands voisins, évidemment, de la Chine, puis du Japon de 1905, 1910 à 1945. Otage aussi de l'antagonisme américano-soviétique, la guerre civile de 50 à 53, et puis otage de la division, une division interne. Otage, finalement, on peut le dire, c'est, d'ailleurs on le dit ça souvent en France, personne n'a intérêt à l'unification de la Corée autour de la Corée.
Et je suis pas sûr que...
On pourrait dire ça comme ça à un Coréen, lui demandant si ce n'est si cette conscience de peuple sacrifié parce qu'il paie des factures qui ne sont absolument pas les siennes.
Moi, je pense qu'il y a quand même dans le psychisme coréen quelque chose de l'ordre d'une blessure et qui se manifeste souvent par un mouvement de rejet à l'égard de tout ce qui est étranger, précisément parce qu'ils ont bien conscience d'avoir été victimes dans l'histoire, parce qu'ils n'ont jamais été le... Il y a quand même un moment dans leur histoire où la puissance coréenne est telle qu'elle était capable de menacer la Chine. Ça, il y a quand même eu un moment. C'est quand même un pays qui a connu ses heures de gloire et qui pouvait menacer une Chine affaiblie. Mais ça n'est pas la dominante, ça n'est pas la note dominante. Moi, je pense qu'il y a effectivement une vulnérabilité et qu'il y a une revendication de reconnaissance. Ce qui caractérise la Corée du Sud actuellement, c'est de vouloir occuper sa place sur la scène internationale et de vouloir être reconnu comme étant un pays qui a une longue histoire, une langue respectable, une culture méritant d'être étudiée. Et il y a d'énormes investissements qui sont faits en ce sens-là. C'est pas difficile pour les chercheurs étrangers, spécialistes de la Corée, d'obtenir des crédits. Parce que le gouvernement coréen distribue des crédits pour la recherche sur le pays, dans le but de le faire connaître. Mais en même temps, c'est bien évident que la Corée a de la difficulté à séduire autant que la Chine ou que le Japon. Moi, quand je suis en France, on me dit bon, tu parles le coréen, c'est bien, mais est-ce que tu parles le japonais, Bernard? Est-ce que tu parles le chinois? C'est-à-dire, du point de vue de l'Hexagone, ce qui intéresse, c'est ces grandes puissances, quoi. C'est la petite crevette qui se trouve entre les deux, là, la péninsule coréenne, ça n'est pas, quelque chose qui attire beaucoup les Français en général. Et ils ne se rendent pas compte que c'est un pays qui est un microcosme, mais qu'à partir d'une connaissance approfondie de la Corée, on entre dans tout le mystère du Nord-Est asiatique et de l'Asie.
Le général McClark, le jour de l'armistice, le 27 juillet 1953. We have stopped the
shooting. Nous avons cessé le feu, cela revêt une grande signification pour nos hommes et pour leurs familles. Cela permettra à la Corée de se remettre aussi de ses blessures. J'éprouve donc un soulagement, mais cela n'est qu'un pas, il reste beaucoup à faire. Il faut maintenant signer un accord de cessez-le-feu total, aussi rapidement que possible. Il faut trouver une solution permanente au problème de la Corée.
Reportage en Corée, premier volet, quelle identité coréenne, par Thierry Garcin, réalisation Daniel Finot, mixage Jean-Richard Dufour.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 décembre 2009.